Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23, toujours avec Thibaut Texer, Thierry Moreau, Pierre Rondeau et Fred Hermel, avec vous bien sûr au 32-16 pour répondre à cette question. Les hommes politiques doivent-ils être exemplaires dans leur vie privée? On parlera également du coup de gueule, d'Éric Dupond-Moretti ce matin sur l'affaire Julien Bayou. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Attention aux hausses, à la hausse des frais bancaire. 14h, deux retraités obligés de vivre dans un camping-car depuis plus de 2 ans car leur maison est occupée par des locataires qui ne veulent pas partir et ne payent pas leur loyer. Faut-il supprimer la trêve hivernale qui protège ces squatteurs tout l'hiver? On vous posera la question et vous pouvez y répondre bien sûr au 32-16. Et puis très beau cadeau à gagner aujourd'hui sur RMC.
Et oui, vous faites quoi le 30 novembre prochain? Vous pourrez partir au Qatar pour assister à un match de la Coupe du Monde et pas n'importe lequel. Ce sera Tunisie-France. Le transport, l'hébergement, vos places pour le match. Rencontrez l'équipe d'RMC. C'est également, tout est à nos frais. Vous pouvez vous inscrire en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Le grand gagnant sera à l'antenne vendredi.
RMC Estelle Midi.
13h04, vous êtes sur RMC et on va s'intéresser tout de suite au coup de gueule du jour. C'est celui de l'avocat Éric Temim ce matin chez Apolline de Malherbe. Il revenait sur l'affaire Julien Bayou et pour lui, on est en train d'assister à une vraie dérive qui dessert la cause des violences faites aux femmes. Écoutez.
Non, je ne crois pas qu'il était contraint à la démission. C'est son choix. Ce qui est grave, c'est que ce qui est porté là sur M. Bayou, c'est un jugement qui est un jugement qui semble être purement moral, voire même moral et très personnel. Si on considère qu'on peut jeter en pâture sur la place publique un responsable politique, mais je dirais quiconque un responsable politique, pour des faits qui sont indéfinis et qui ne constituent pas une infraction pénale, ont franchi une barrière gravissime.
Voilà, l'avocat Hervé Temim ce matin chez Apolline de Malherbe. Et en tout cas, Thibault, les Français ne sont pas d'accord avec lui.
Ils sont 69% à réclamer plus de transparence de la part des politiques dans leur vie privée. Résultat du baromètre Odoxa Mascaré, une proportion qui augmente en fonction de l'âge et qui varie aussi en fonction des partis. À titre d'exemple, quand 8 sympathisants Les Républicains et Insoumis sur 10 appellent nos élus à être plus transparents, ils ne sont que 53% chez Europe Écologie Les Verts. Des Français jugent que le comportement de la classe politique n'est pas exemplaire et qu'il s'est même dégradé au fil des années. Les sympathisants des partis radicaux sont les plus sévères en la matière et à 67%, c'est en matière d'argent que les Français sont les plus exigeants. Vient ensuite les mœurs pour un tiers d'entre eux, puis l'écologie, la non-violence et enfin la probité. Au début de l'année, une étude OpinionWay révélait que la confiance des Français en leurs élus était plus grande au niveau local qu'au niveau national.
Alors, les hommes politiques doivent-ils être exemplaires dans leur vie privée? Je commence avec vous, Pierre Rondeau.
Mais j'arrive pas à comprendre la question, d'ailleurs même les réponses de la majorité des Français. Déjà, premier élément, ce qui me semble assez évident, tout le monde doit être exemplaire.
Dans sa vie privée?
C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on doit faire preuve d'exemplarité. Alors, pourquoi les hommes politiques plus que les autres? Non, mais je ne dis pas le contraire, je n'ai jamais dit que j'étais imparfait. Simplement, exiger cette exemplarité de la part du corps politique, des représentants politiques. Déjà, j'ai envie de vous dire, premier élément, respectons le temps de la justice. Respectons déjà la justice.
Mais là, dans l'affaire Julien Bayou, il n'y a pas de plainte. Donc il n'y a pas de justice.
Donc à partir de là, nous sommes d'accord. Je mets tout autant sur le même pied d'égalité la présomption d'innocence que la présomption de sincérité de l'accusateur ou l'accusatrice. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Présomption de culpabilité, présomption de sincérité, présomption même d'innocence, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une plainte, s'il y a une accusation formelle, s'il y a véritablement eu des faits qui lui sont reprochés, oui, il est évident qu'il doit démissionner, il est évident qu'il doit attendre le temps de la justice pour pouvoir, ou pas, maintenir sa carrière politique.
C'est-à-dire que si on lui reproche
exiger de quelqu'un sur la base de rumeurs... Je veux dire, aujourd'hui, on est où là? Maintenant, aujourd'hui, c'est le tribunal médiatique. Aujourd'hui, c'est avant même qu'il y ait une action juridique, une action judiciaire, une plainte. On démissionne avant même qu'il y ait eu quoi que ce soit, sur la base de rumeurs, sur la base de témoignages donnés et obscurs.
Mais
parce que
tu disais qu'il fallait être exemplaire.
C'est ça, je comprends pas.
L'exemplarité, elle est pour tout le monde. Tout le monde doit l'être.
Mais c'est quoi
bien
être exemplaire?
Ce que je veux vous dire, c'est que bien évidemment, Julien Bayou ou qui que ce soit, n'importe qui, se doit d'être exemplaire, c'est une évidence. Personne ne doit gifler sa femme.
Mais non, on ne se doit pas d'être exemplaire.
Moi, je ne sais pas ce qu'on entend par exemplarité. Par exemple,
surtout.
Mais bien évidemment que je. Attendez. Quand on parle d'exemplarité,
dans ta vie privée, par exemple, tu es exemplaire sur touche.
Super. En tout cas, je m'efforce à l'être. Je vous dis pas que je le suis. Je dis que tout le monde doit s'efforcer à le devenir, à l'être, à respecter son conjoint ou sa conjointe et à ne pas.
Non, mais Pierre, on va prendre un exemple très précis. Un homme politique n'est pas fidèle. Il a une maîtresse. C'est sa vie privée. Il n'enfreint aucune loi. Est-ce que la transparence que tu souhaites pour les hommes politiques doit aller jusque-là?
Attention, j'ai pas parlé de transparence. J'ai dit que s'il y avait véritablement une action judiciaire, là en l'occurrence une tromperie, c'est pas une faute grave.
D'accord.
Quand on parle d'exemplarité,
on va aller sur la morale.
Voilà le danger, les amis.
Attendez, laisse finir Pierre.
Simplement, tout ça. Enfin, je vais finir là-dessus. C'est juste que s'il y a une demande d'exemplarité, c'est l'exemplarité juridique, pas morale.
Ah effectivement, bah voilà.
C'est clair. Si on parle de morale, bien évidemment que si je trompe ma conjointe ou mon conjoint, je vais pas être démissionnaire de mon mandat politique.
Mais si c'est un élu politique, donc quelqu'un qui représente les Français, c'est ma question.
Quand je parle d'exemplarité, c'est pour tout le monde. Mais le curseur est sur le degré d'exemplarité.
Même si c'est un homme politique qui est conservateur et qui défend la famille et le mariage.
On le reprochera et ça sera un argument pour son opposition.
Et il ne sera pas élu.
Par exemple,
j'ai froid dans le dos. Je voyais le sondage, 33% des Français demandent la transparence des mœurs. Là, c'est la morale. Et comme disait le grand Léo Ferré, n'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Bah oui, la morale de Thierry n'est pas la mienne, n'est pas celle d'Estelle ou de Pierre.
Oui, mais les hommes politiques, ils se doivent avoir une morale.
Mais pourquoi ?
Ils sont élus par le peuple et ils nous représentent.
Ah oui, mais enfin, mais non, les mais mœurs,
mais le comportement, je termine, pardon.
Le comportement sexuel, etc., c'est chacun, voilà. Ce qui peut paraître horrible à quelqu'un n'est pas forcément, ou amoral pour quelqu'un, est tout à fait moral pour une autre personne. Moi, je trouve ça très, très grave, ce qu'il y a. Contrôler, que l'homme politique ne pique pas dans la caisse, ça me paraît tout à fait normal.
Oui. Mais. C'est préférable.
Oui, mais très bien. Mais par exemple, même, vous savez, cette ultra-transparence du patrimoine, etc., en quoi, quelqu'un est moins bien parce qu'il a pas d'argent ou parce qu'il a beaucoup d'argent? Il y a quelque chose qui me gêne dans cette ultra-transparence qui vient du Nord, mais c'est surtout la question des mœurs qui me fait très très peur. Parce qu'on commence par une petite chose, il ne faut pas frapper sa femme, et puis après, il ne faut pas tromper sa femme ou son mari. Voilà, vous voyez où on arrive là. Il y a une nouvelle morale puritaine qui est en train de s'installer, qui moi me fait très peur.
Alors, on va tout de suite accueillir notre invité sur ce débat, c'est Maître Delphine Meillet. Bonjour, maître avocat pénaliste au barreau de Paris.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, je voudrais tout d'abord vous faire écouter Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. C'était ce matin, il s'exprimait à propos de l'affaire Julien Bayou, et pour lui, il est temps de siffler la récré. Écoutez.
Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui. Même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole, et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par telle ou telle partie. Il y a la justice et il y a un code pénal. Oui, c'est un coup de gueule, c'est vrai. C'est vrai, il y en a marre de ces trucs-là. La justice, c'est clair, c'est une institution qu'on ne peut pas mettre de côté. Je suis attaché à la parole des victimes, je suis attaché à la présomption d'innocence, je suis attaché à un certain nombre de grands principes que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer.
Voilà le coup de gueule d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, ce matin. Maître Delphine Meillet, est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est en train de tout confondre en France, c'est-à-dire la justice et les médias?
Comment ne pas être d'accord avec Dupond-Moretti sur ce terrain-là, quand on est avocat et qu'on a conscience des dérives gravissimes que vous entendez quotidiennement, voire plusieurs fois par jour aujourd'hui? Et pour aller plus loin que Éric Dupond-Moretti, je trouve que cette situation va bien au-delà des réseaux sociaux. Lui met en cause les réseaux sociaux, moi je mets beaucoup plus en cause la réception de l'information par les journalistes, pas tous, mais certains, qui véhiculent des informations de manière certaine, péremptoire, sans faire passer l'idée qu'on pourrait remettre en cause des accusations. Donc oui, je valide ce que dénonce Dupond-Moretti, et je valide également ce qu'a dénoncé hier l'avocate de Julien Bayou, à savoir l'instrumentalisation de ces, au nom de la violence du combat pour la violence faite aux femmes, on utilise à des fins politiques cet argument pour entraîner la démission de concurrents.
Donc, oui. Alors après, il y a peut-être pas que ça. Le problème aujourd'hui pour les médias, Maître Delphine Bayet, et vous l'avez dit, on ne sait pas grand-chose hein, sur cette affaire Julien Bayou, parce qu'il ne s'est pas exprimé. Là, son ex-compagne ne s'est pas exprimée. Finalement, on n'a que les paroles de Sandrine Rousseau et celles de l'avocate de Julien Bayou. Mais nous, on est obligé évidemment de prendre des pincettes, parce qu'on se dit aussi à chaque fois en tant que médias, mais... Voilà, s'il y a quelque chose vraiment contre Julien Bayou et qu'on a dit attention, présomption d'innocence, etc., c'est compliqué. Et en fait, la situation, elle est compliquée pour tout le monde.
Elle est compliquée. C'est des sujets gravissimes. Oui. Et d'ailleurs, la preuve, vous voyez, des gens perdent leur job, perdent leur mandat, peuvent perdre leur épouse et ça peut aller encore plus loin. Il peut y avoir des gens qui peuvent. Le vivre tellement mal qu'ils peuvent aller jusqu'au suicide, et on a quelques exemples. La difficulté que vous avez journaliste, c'est que une information telle que celle révélée par Sandrine Rousseau et telle la manière dont elle l'a révélée, c'est que vous la prenez comme telle, pour la plupart d'entre vous. Et que le lancement public d'une information médiatisée est admis comme une preuve. Et très souvent, écoutez bien les commentaires des uns et des autres, vous parlez au présent. Et là, je suis ravie d'entendre que vous prenez l'information avec des pincettes et avec difficulté, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je l'entends de manière régulière. C'est plutôt pris comme une affirmation, une accusation qui est une affirmation d'évidence que si on accuse, si une femme accuse un homme, c'est que nécessairement elle dit vrai.
Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'accusation. Donc,
pardon ?
Il n'y a pas d'accusation. C'est bien ça le souci.
Non, mais il y a signalement. On ne sait pas quelles sont ces accusations, et c'est notamment tout le sujet, une partie du sujet, mais néanmoins, il y a signalement.
Auprès d'un comité interne à un parti.
Auprès de la cellule d'enquête du parti ELLB.
Mais ni Julien Bayou, ni justement l'ex-compagne de Julien Bayou qui a fait ce signalement n'ont été entendus. Pour l'instant, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment, et Pierre Rondeau l'a rappelé il y a quelques instants, de présomption de culpabilité. Avant, on parlait uniquement de présomption d'innocence. Vous trouvez que c'est une bonne chose quand même, cette présomption de culpabilité ?
Absolument pas. Absolument pas. Malheureusement, dans les médias, elle existe. Et c'est même plus que de la présomption de culpabilité. C'est déjà une culpabilité. Regardez, il est obligé de quitter, ses fonctions. Il est contraint.
Personne ne l'obligeait, hein, il aurait pu rester.
S'il ne l'avait pas fait, les associations féministes auraient été aujourd'hui, demain et après-demain, certaines associations féministes, devant le siège social du parti.
Oui, mais il n'était pas obligé de le faire.
Contraint. Donc vous me parlez de présomption de culpabilité. C'est même au-delà. On est dans la culpabilité. C'est quelque chose qui est gravissime pour tout le monde. La présomption d'innocence, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on répète, nous, avocats, présomption d'innocence, respect du contradictoire, droit de la défense. Ça paraît des principes comme ça, un peu sortis de nulle part et qui sont grandiloquents. C'est faux. Au quotidien, c'est une vérité que vous ressentez quand vous êtes accusé comme une nécessité. C'est la différence entre une dictature et une démocratie. C'est
oui, sauf que la plaignante, je veux dire, si les faits sont gravissimes, il y a eu un signalement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas non plus laisser ça comme ça.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Mais j'en sais rien, justement.
Justement, là, vous allez dans ce sens-là.
Non, je vous pose la question, mais il y a eu signalement.
Auprès d'un comité interne, d'un parti politique.
Il y a eu signalement de toutes sortes. Et là, en plus, on focalise sur les agressions sexuelles. Si tant est qu'on soit sur ce terrain-là, des violences faites aux femmes. Mais il pourrait y avoir finalement pour autre chose. Il pourrait y avoir finalement pour peut-être tentative d'avoir piqué dans la caisse. Mais il y a une fixation sur les violences sexuelles et faites aux femmes qui, à mon sens, sur le terrain sexuel, on pousse, on va trop loin dans les dénonciations et les accusations.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, Maître Delphine Meillet, d'avoir été avec nous sur ce débat, avocate pénaliste au barreau de Paris. Thierry Moreau.
Oui, on a assisté à un vrai glissement là depuis 15 jours entre deux affaires. L'affaire Quatennens, où on a un député qui avoue avoir commis une violence. Donc on est presque dans un plaidé coupable.
Qui est un délit.
Qui est un délit répréhensible, et il y a une enquête judiciaire ouverte qui devra faire la lumière. Et donc la question qu'on peut se poser en tant que journaliste, commentateur, c'est est-ce que quelqu'un qui fait la loi, qui est député, peut être revendiqué d'avoir giflé sa femme, dont je rappelle que les associations d'aide aux victimes de violences faites aux femmes, je parle pas des féministes, je parle des associations d'aide aux victimes, disent qu'une gifle, c'est déjà trop tard.
C'est le début de...
Et on est passé ensuite à l'affaire Bayou, où on se retrouve avec quelqu'un qui est accusé de violence morale, balancé par une de ses adversaires au sein d'Europe Écologie Les Verts. Celui-ci ne sait pas dont on l'accuse. Il a demandé à pouvoir s'expliquer. Il n'a toujours pas pu le faire. Quatre fois, il a demandé à s'expliquer. Et c'est là qu'on atteint les limites de ces comités théodules internes au parti qui sont censés régler ces problèmes-là. Et encore une fois, et je suis un peu inquiet de ce que tu as dit tout à l'heure, Fred, quand tu dis, pour l'instant, on met l'opprobre sur quelqu'un qui a giflé sa femme, et demain, on mettra l'opprobre sur quelqu'un qui a trompé sa femme. Non, parce que la différence entre les deux, c'est qu'il y a
Il n'y a pas de délit.
Je préfère, et pour reprendre ce que tu disais, moi, qu'un homme politique soit riche, je m'en fous. Qu'il soit riche parce qu'il a volé de l'argent, ça me gêne. Donc, le seul critère qui est inamovible, c'est la loi. Et c'est pour ça que Dupond-Moretti a raison. Et il faut cesser avec ces comités internes aux partis qui sont censés régler les problèmes, parce que on va pas se mentir, Sandrine Rousseau soutient quelqu'un d'autre pour le secrétaire général d'Europe Écologie des Verts. Donc en mettant Bayou sur le côté, ça avantage sa candidate. Ouais. C'est ça la
mais
réalité.
Mais tu peux te dire aussi, je veux dire que Sandrine Rousseau, elle dit qu'elle a reçu l'ex-compagne de Julien Bayou,
qu'elle transmette à la justice. Oui, elle est élue, article 40, elle transmet à la justice.
Peut-être qu'elle a été très émue par ce que lui a dit.
Elle transmet à la justice.
Je suis pas juriste. Mais s'il y avait crime, non-dénonciation de crime, c'est un délit en France.
Oui, mais article 40, surtout,
elle a dit qu'elle n'était pas sûre que les faits étaient révélés.
Mais c'est parce que c'est... Justement, l'article 40, il est fait quand on a connaissance de faits, on le confie à la justice, et c'est à la justice de démêler le vrai du faux.
Ce qui est gravissime, c'est on parle de Julien Bayou, on parle de l'exemplarité, je suis désolé, mais ce qu'a fait Sandrine Rousseau, c'est un assassinat politique. En pleine connaissance de cause,
sur un pilori.
Tout dépend, mais laissons le travail de la justice, laissons faire la justice. Elle, sur un plateau télé en plein direct, elle dit qu'elle a eu des témoignages, en tout cas qu'elle a reçu le témoignage de l'ex-compagne de Julien Bayou qui lui le reprocherait justement des faits de violence physique sur elle. Mais déjà, si c'est vrai, si vraiment elle avait reçu ce témoignage, elle aurait dû aller à un commissariat et dû justement dénoncer cet acte et ne pas le dire, encore plus pour une représentante politique, pour une élue de la nation, le dire en plein direct à la télévision. Toutes les conséquences que ça va porter derrière, c'est un assassinat politique. C'est évidemment, c'est elle directement. Alors j'ai pas directement l'accusé et la montré du doigt, mais qu'elle n'ait pas conscience de cette parole, c'est gravissime de sa part.
Mais attendons aussi, je veux dire, les accusations de...
Mais elle aurait dû les apporter devant la justice, si elle avait reçu justement ces doléances, si elle avait reçu ces témoignages, elle aurait dit...
On ne sait même pas...
C'est comme si vous, par exemple, Estelle, vous recevez justement le témoignage au sein d'un comité interne à une chaîne de télévision, vous recevez un témoignage de violence... Et plutôt que d'aller à un commissariat ou à la justice pour justement mettre en avant ce témoignage, vous le dites à la télévision. Mais on est où là?
Je suis d'accord. On est avec Jérémy qui nous appelle du Bourdoison dans l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Et Jérémy, vous vouliez intervenir sur ce débat?
Oui, en fait, moi je ne suis pas frère inquisiteur. Donc moi, la vie privée des politiques, c'est du voyeurisme, ça ne m'intéresse pas. Le seul problème qu'il y a, je vais recadrer un petit peu le débat de ce que disait Thierry Moreau, c'est que là, on est sur un problème, effectivement, d'exemplarité. Les donneurs de leçons, jusqu'à maintenant, ils étaient là. Ça a été Sandrine Rousseau, ça a été Quatennens, président de la NUPES.
Mélenchon,
voilà, excusez-moi. Ces donneurs de leçons, jusqu'à maintenant, ils étaient là sur la place publique à tout dénoncer, mais ils ont juste à payer maintenant le retour de bâton, c'est tout. Mais moi, ce que ces affaires-là, on en parle depuis un long moment, des histoires de mœurs, tout ça. On a eu l'affaire Strauss-Kahn, on a eu...
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais c'est du voyeurisme. C'est un outil politique pour fusiller ces personnes-là, tout simplement.
Oui, mais fait, on n'est pas sur les mêmes faits quand même. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on parle de justement savoir si on par rapport à votre sondage que les Français demandent un peu plus de
d'exemplarité, de transparence. Ouais.
Mais le souci, c'est que moi, je veux pas de la transparence. Après, s'il y a des affaires, ça les concerne. Mais moi, je veux pas déjà.
Ça ne vous concerne pas en tant qu'électeur, Jérémy.
Et que Adrien Quatennens ait giflé sa femme.
Moi, ça reste un délit, hein.
Ça reste un délit, effectivement.
Mais là, qui vote les lois et qui ne les respecte pas.
Après, c'est ces arguments politiques. C'est des arguments politiques. Moi, je vais pas aller lire une personne parce qu'elle est. Elle est toute belle, elle est toute gentille. Après, il y a des convictions. Moi, je vais voter plus par conviction que que pour le personnage. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que vous vous fichez que le personnage, il est commis un délit, par exemple. Mais alors, imaginez, vous pourriez voter avec quelqu'un qui, par exemple, qui tape sa femme, ça ne vous gênerait pas ?
Ce serait gênant, effectivement. Mais je suis pas inquisiteur. Ça n'empêche pas d'être.
Mais si la justice a fait son travail et qu'il a été accusé.
Le problème, c'est qu'on accuse sans avoir les tenants, les aboutissants, et avant même qu'il y ait une décision de justice. Et moi, ça ne me convient pas, ça.
D'accord.
Ce tribunal peu médiatique, moi, ça ne me convient pas. Parce que ça dénature, ça décrédibilise la politique, et on en est à
une abstention
record. Et ce n'est pas gagnant pour nous, en fait.
Bah merci Jérémy, c'est intéressant.
C'est intéressant ce que dit Jérémy, parce qu'en fait il pointe le doigt sur un truc, c'est-à-dire qu'on a vu par exemple à Levallois les Balkany réélus alors qu'ils avaient été condamnés
et de manière définitive,
mais ils considéraient que c'était un bon maire donc ils votaient pour
exactement,
lui.
Oui.
Cette histoire de transparence, moi je pense qu'il faut vraiment mettre un mur infranchissable, une espèce de cordon sanitaire entre qu'un homme politique se mette une plume dans les fesses. Moi j'en ai rien à faire s'il fait bien son travail, mais qu'un homme politique.
C'est pas répréhensible par la loi une plume dans les fesses, vous le savez.
Oui, mais c'est la morale.
Justement, qu'un homme politique. Qu'un homme politique ait giflé sa femme, ça me gêne parce que c'est contraire à la loi. Je pense que ce mur infranchissable qui est la loi, rien que la loi, toute la loi, elle doit être un mur inamovible entre ce qu'on peut dénoncer et ce qu'on ne doit pas dénoncer.
Alors on vous a posé la question en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Les hommes politiques se doivent-ils d'être exemplaires dans leur vie privée, Thibault ?
C'est plutôt mitigé, vous êtes 58% à penser que oui, le non est seulement à 42%.
C'est très intéressant, nos auditeurs sont très intelligents parce que dans cette question il y a tout, il y a la question de l'argent, il y a la question de la morale, et je pense qu'en France nous sommes un pays encore attaché à la liberté des mœurs, et les gens ils pensent au moment de voter.
Bah non, parce qu'ils pensent que tu dois être exemplaire.
Bah oui. Mais non, parce que il y a 42% qui disent non.
Ah bah d'accord, c'est pas la majorité que tu as.
Non,
c'est bon en maths ou pas?
Non, très nul.
Vous savez qu'une élection, si vous avez 42, vous perdez.
Non mais 42, c'est, a dit Thibault, c'est mitigé, c'est-à-dire que c'est pas 78%.
Non, mais élu avec 58%, c'est pas mal.
42% des gens qui disent attention, il faut pas tout mélanger, je trouve ça très intelligent.
Ah bon, d'accord, bah écoutez.
Mais j'aime beaucoup nos auditeurs.
Non, mais c'est bien de prendre toujours ce qui vous arrange, Fred. C'est une très très belle philosophie. Dans un instant, le zapping.
C'est condamnable ?
Non, c'est pas condamnable. Le zapping, le meilleur d'RMC, la France va-t-elle devoir se remettre au travail ? L'extrême droite pourrait-elle gouverner la France dans 5 ans ? On regarde ce qui se passe en Italie, évidemment. Et puis, un grand champion sportif peut-il pleurer ? Vincent Moscato pense que non, et je vous demanderai si oui ou non sur le plateau. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi jusqu'à 15h, et c'est l'heure des meilleurs moments d'RMC. Le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter ces meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures en compagnie de Thibaut Texer, Thierry Moreau, Fred Hermel et Pierre Rondeau. On va commencer avec un extrait des GG ce matin. La France va-t-elle se remettre au travail ? Selon une étude d'une boîte d'intérim, il va y avoir plus de 4 millions de postes à pourvoir dans les 12 prochains mois, dont un grand nombre dans des secteurs en tension comme la restauration ou la logistique. Une pénurie de main-d'œuvre que ne supporte plus le restaurateur des GG, Stéphane Manigold.
C'est mon coup de gueule dans les GG vis-à-vis de Pôle emploi qui a découlé sur une réforme. C'est quoi ? C'est que à Paris, il y a 5000 personnes qui cherchent du travail en cuisine, 5000 qui cherchent du travail en salle. Ils sont protégés aujourd'hui par Pôle emploi. Ils ont le parachute social qui s'appelle l'indemnisation chômage. Et moi, je les avais appelés, les mecs, ils disent non, mais rappelez-moi plus tard.
Ah oui.
Et c'est insupportable cette situation.
Droits, en fait.
Mais oui, mais rappelez-moi plus tard, je préfère rester à la maison, j'ai droit au chômage, au même titre que quand un salarié te quitte, on en parlera tout à l'heure, il te dit je vais me mettre en arrêt. C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu le médecin qui te dit déjà qu'il va être en arrêt. Il faut changer la mentalité. Et il faut que toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui profitent de la solidarité nationale, qui se disent une chose, c'est à cause d'eux que le système va craquer. C'est à cause d'eux que demain, ceux qui seront vraiment les plus démunis, ceux qui en auront besoin, eh ben, seront victimes de ceux qui abusent. Ça suffit au travail. Il y a 4 500 000 personnes qui cherchent. Nous, on le recrute. Venez nous voir et vous verrez que vous trouverez votre place.
Voilà, gros coup de gueule de Stéphane Manigold ce matin dans les GG. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Pierre?
Alors, déjà, on peut effectivement prendre des chiffres et constater, selon donc cette étude, il y aurait d'ici les 12 prochains mois 4 millions d'emplois vacants.
Oui.
On est aujourd'hui à 300, entre 300 et 400 000, donc j'ai un peu de mal à croire en cette étude de vous parler de 4 millions d'emplois vacants. Il y a 2 900 000 chômeurs aujourd'hui en France.
Donc, bah, tu vois, ça résoudrait le problème du chômage.
Alors, déjà,
France.
Oui, si on c'est imagine que ça, on est cette dichotomie entre emplois vacants et différence, pardon, excusez-moi d'employer des mots.
Non, mais j'adore, mais on n'est pas habitué.
Ce qui est sûr, c'est pour le seul cas du secteur de la restauration, en l'occurrence, le témoignage qu'on vient d'entendre dans les grandes gueules, j'ai envie de dire tout simplement, si vous voulez ne plus avoir ces emplois vacants, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail. Tout le monde aujourd'hui,
les restaurateurs ne peuvent pas augmenter les salaires. Là, il y a un truc qui s'appelle l'inflation et l'augmentation des matières premières.
Mais justement, tout le monde dit.
Bah oui, mais quand vous payez votre huile 300
plus cher. Premier élément, sur le parachute social, il faut juste apporter des chiffres et des faits. L'indemnité moyenne pour les chômeurs, c'est 900 euros par mois. Mmh. Donc de là à chaque fois cataloguer et caricaturer en disant que le chômeur est forcément ce chômeur volontaire fainéant qui ne voudrait pas travailler, qui préférait plutôt profiter de ses allocations.
Il y en a qu'un sur deux qui est indemnisé. Hein.
En plus. Mmh. Alors déjà, on le rajoute, un sur deux qui est indemnisé, 900 euros de moyenne d'indemnisation et 2% vont au bout, justement.
Alors pourquoi ces chômeurs n'acceptent pas les boulots dans la restauration?
Parce qu'ils sont sous-payés et maltraités, parce que toutes celles
des que les gens préfèrent rester chez eux sans être payés plutôt que d'aller bosser dans la restauration.
L'immense majorité des témoignages qu'on peut recevoir de gens qui sont passés par le secteur de la restauration avant le Covid-19 vous disent tous la même chose. Les conditions de travail sont dégueulasses.
D'accord.
Ils sont sous-payés, maltraités, ils vivent dans des conditions.
Il y a une revalorisation de 16%.
Oui, mais quand vous dites
c'est un rattrapage,
rattrapage en plus. Quand vous dites à quelqu'un, maintenant tu vas travailler le week-end, tu vas travailler le soir, tu vas travailler avec des horaires décalés, pour 1500 euros par mois, je suis désolé, la personne dit non, j'ai pas envie. C'est tout.
D'accord. Et augmenter les salaires. Normal,
mais attendez, après la question des valorisations, la question des rémunérations, la question du pouvoir d'achat, qui se pose bien évidemment. On pourrait trouver des solutions de la part de l'État directement et pas forcément des employeurs pour valoriser l'emploi, pour valoriser le travail. Ça, c'est une évidence.
Ah.
Maintenant, directement sur les entrepreneurs et le secteur de la restauration, s'il y a des problèmes de main-d'œuvre, c'est aussi à vous de vous remettre en question.
Alors Fred, je vous connais un peu, je pense que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Pierre Rondeau.
Non, parce que c'est pas que le secteur de la restauration. C'est ça le problème.
C'est tous les métiers pénibles en fait.
La
santé, le transport, le BTP,
même les coiffeurs trouvent pas de personne parce que trouvent pas d'apprentis.
C'est un métier pénible, t'es debout toute la journée.
Oui, c'est pénible. Non, mais parce que on veut pas travailler le samedi. Le samedi on travaille. Et même les pharmaciens, les jeunes pharmaciens ne veulent pas travailler, ne veulent pas reprendre d'officine et quand ils négocient leur truc, ils disent oui, moi je bosse du lundi au vendredi. Ouais, sauf que le samedi c'est un jour important pour les pharmacies. Et puis quand on veut être journaliste de soir, il faut bosser le samedi, le dimanche. À un moment, tous les métiers ont des contraintes et il faut les accepter. Sinon, si on préfère faire sa vie à passer sa vie à ne rien faire, c'est un problème, oui.
Non, mais c'est pas ça.
Dans la caricature, Fred.
Arrête, on dirait Pierre Rondeau.
Pourtant, c'est vraiment pas le genre.
Oui,
heureusement.
Réalité. Mais
c'est marrant.
N'importe quel recruteur,
je dois vivre dans une bulle. Je n'ai autour de moi que des gens ou des jeunes qui ont envie de travailler et qui ont envie de travailler le week-end parce qu'ils sont payés double le dimanche, ils sont payés beaucoup plus. Je dois vivre dans une bulle.
Pour apporter de l'eau à ton moulin, Thierry, il y a une étude qui a été faite là justement sur les jeunes et les jeunes ont envie de travailler.
Mais évidemment
cas, ne sont pas contre le fait de travailler le samedi et le dimanche.
Bien
et
sûr.
L'étude vient de sortir ce matin.
Je vais t'expliquer pourquoi.
Thierry.
D'abord, je trouve que ce que dit Manigold en disant que Pôle emploi protège les chômeurs, protège ces gens en faisant qu'ils ne vont pas travailler, je trouve ça inadmissible. Non, il ne protège pas les gens. Il les protège parce que de la précarité, mais il les protège pas pour les empêcher d'aller travailler. Il faut arrêter. Les 5000 personnes qui sont sur le, qui ne trouvent pas de boulot dans la restauration, ben c'est tout simplement parce que, comme le dit Pierre, ce n'est pas assez payé. Les rythmes de vie, etc., font qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens qui ne
mais
veulent
à un
pas y aller.
Tu vas pas payer un serveur comme un neurochirurgien.
J'ai pas dit ça. Mais entre un neurochirurgien et un salaire de misère pour travailler à la plonge dans un restaurant, il y a quand même.
Après, mais moi, je vais te parler de ma bulle.
Mais tu peux, au moins mettre des primes, c'est ça, en fait. Parce que, on sait très bien que pour les restaurateurs, c'est compliqué d'augmenter les salaires, mais mettre des primes, évidemment. Mais après, le problème, c'est pas que le salaire.
Des intéressements sur le fait que ça fonctionne ou pas, par exemple.
Et le fait qu'il n'y ait plus de pourboire. Avant, on donnait tous des pourboires. Et maintenant, t'es avec ta carte bleue, tu sais pas.
C'est exonéré, maintenant. Maintenant, on peut les déclarer, c'est exonéré d'impôt.
Beaucoup de gens le font pas parce que, en fait, quand tu donnes un pourboire avec ta carte bleue, tu sais jamais où ça va.
C'est vrai.
Et donc, en fait, avant, tu donnais au serveur et tu savais que ça allait au serveur. Mais ça, c'est un manque à gagner pour les serveurs. Et effectivement, les restaurateurs plutôt d'augmenter, il pourrait au moins verser des primes et des intéressements, effectivement.
Alors, tu parles de ta bulle, moi je vais te parler d'un exemple tout simple. Avant-hier, samedi, 50 ans de mariage de ma marraine, il y avait un de mes cousins, il est couvreur, ouvrier couvreur.
Oui.
Il trouve pas. Lui, il a du boulot, il a plein de boulot. Ils essaient dans sa boîte d'engager des gens, ils veulent pas.
Spécifique, un couvreur, ça s'apprend pas en 5 jours.
Mais des couvreurs formés disent qu'ils veulent pas travailler à moins de 3000 euros par mois. Ah ouais, mais couvreur, il dit voilà, on gagne pas 3000 euros par mois.
Couvreur, c'est un métier difficile, c'est un métier à risque.
Mais c'est le propre ouvrier, qui est mon cousin, qui explique qu'on ne peut pas gagner autant quand on est couvreur et qui lui accepte ce salaire-là. Après, et puis, il a une vie tout à fait correcte, mais qui a dit que les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail n'acceptent pas de travailler à moins de 3000 euros par mois.
Après, c'est effectivement la mousse du cas par cas et du témoignage là-dessus, ok, on va pas le remettre en cause. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ça, si on parle de l'indemnisation, rappelons que le chômage, c'est 24 mois. Donc ces gens-là, au bout des 24 mois, au 25e mois, et en plus c'est dégressif, et c'est 900 euros en moyenne.
Au-delà, je te dirais ça.
Non mais 500 euros par mois.
Mais c'est 500 euros. Tu peux pas vivre avec 500 euros.
Bien sûr que non. Mais ne dis pas qu'ils ne touchent rien.
Oui, mais
c'est pas d'indemnité chômage.
Tu dis, Fred, ils demandent 3000 euros par mois pour être couvreur. Au bout du 24e mois, admettons qu'ils puissent toucher des aides, des allocations, des indemnités. Admettons 900 euros en moyenne. Mais admettons qu'ils sont à 2000, 3000. Au bout du 24e mois, ils n'auront plus rien. Ils ont le RSA, c'est vrai, ils ont quelque chose. Mais 589 euros par mois.
Ils bosseront au black à côté.
Oui, mais ces gens-là qui te disent
pas la
je vais
payer, Fred, on n'est pas heureux au chômage, il faut arrêter cette.
Mais j'ai jamais dit ça.
Alors, excuse-moi, c'est ce qui est un peu sous-tendu à ton discours.
Mais non.
Eh bien, changeons de sujet. Apolline Matin, ce matin, l'extrême droite va-t-elle gouverner la France dans 5 ans? En Italie, c'est une réalité depuis dimanche, après la victoire de Giorgia Meloni, la leader de l'extrême droite. Une victoire possible grâce à une alliance des droites. Et cette victoire, eh bien, Éric Zemmour l'espère toujours en France. Écoutez.
Ils ont réussi à faire, oui, ce que j'ai raté en France, mais vous savez, il faut pas être tout seul pour réussir une union. Il faut que les autres soient d'accord. En fait, l'Italie, vous avez vu, c'est très intéressant, cette coalition des droites, parce que ça ressemble, en fait, chaque parti italien correspond un peu à un parti français. Sauf que là-bas, les trois partis sont d'accord pour s'allier, donc ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Il faut l'union des droites pour combattre et pour vaincre dans cette situation.
L'extrême droite va-t-elle gouverner la France dans 5 ans, Pierre Rondeau?
Si on regarde ce qui s'est passé en Hongrie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Brésil, on est en droit de s'inquiéter ou pas, mais en tout cas, on est en droit d'imaginer ou de supposer que l'extrême droite puisse arriver au pouvoir en 2027. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé dans de grandes puissances internationales.
On a une élection à deux tours.
Il peut avoir une forme de barrage, il peut avoir une forme de barrage républicain, mais ce plafond de verre ou ce plafond républicain peut parfaitement exploser. Je me rappelle encore, là, pour les élections présidentielles de mars dernier ou d'avril dernier, des gens qui disaient justement plus jamais Macron, plus jamais voter pour Macron après les promesses non tenues durant son premier mandat. Et beaucoup de gens se posaient la question, second tour Marine Le Pen-Macron, je ne me déplace pas. Et d'ailleurs, on l'a constaté, beaucoup de gens ne se sont pas déplacés.
Tout sauf Macron.
Si on a de nouveau un mandat qui va déranger, qui va être critiqué, qui va être...
Il n'y aura pas Macron dans aux prochaines élections.
Oui, mais il y aura tout de même un représentant de la majorité, j'imagine, en tout cas de la droite ou de la gauche, et des gens pourraient dire... Après ce qu'on a connu, s'il fait la réforme des retraites, s'il subit l'augmentation des prix, s'il subit les conséquences de l'inflation, de la hausse tarifaire, de l'énergie, on pourra avoir parfaitement en 2027 des gens, des électeurs qui vous disent « Je ne veux plus jamais ce candidat ou ce camp politique, donc j'irai me tourner comme l'ont fait les Italiens, mais comme l'ont fait avant eux, les Brésiliens, les Américains, les Anglais, les Hongrois, vers le parti d'extrême droite. »
Thierry Moreau, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen ou quelqu'un d'extrême droite peut arriver au pouvoir en France ?
C'est difficile de dire ça maintenant, bien sûr, mais moi ce qui m'a surtout intéressé dans l'élection italienne, c'est que les commentateurs expliquent qu'en fait, la prime a été à quelqu'un qui n'a jamais été compromise dans des actions de gouvernement. Elle a été vaguement ministre de la jeunesse, mais c'était un tout petit ministère. Et donc Matteo Salvini, en revanche, lui s'est écroulé parce qu'il a payé le fait d'avoir été à la tête de l'État et de ne pas avoir réussi à régler les problèmes. Donc je pense que une tentation d'extrême, en tout cas les extrêmes ont des solutions.
La prime à la nouveauté, ça voulait dire.
Alors il y a la prime à la nouveauté et la prime à la solution facile qui ne marche pas, on le sait, parce que comme tous les pays que tu as cités, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'il y a une tentation dans les années à venir. Un, pour quelqu'un qui serait vierge politiquement, qui n'a donc jamais été au pouvoir, et deux, qui a des solutions faciles. Et les extrêmes ont souvent des solutions un peu faciles.
Frédéric Hermel.
Pierre Obi, de citer la Suède. Grand
c'est
pays,
ça, c'est pour ça que je l'ai rajouté.
Oui, social-démocrate. Oui. Grand pays social-démocrate, un modèle pour souvent.
C'est un modèle pour Pierre surtout.
Oui.
C'est plus le Danemark, mais oui.
Oui, mais un modèle. Et puis ils en sont arrivés là. Pourquoi ? On le sait parce que les gens en avaient marre de l'immigration. Ils ont voté pour ça. Hein. Ça c'était non, mais en grande partie. Il y a une attitude à l'Assemblée nationale des députés du Rassemblement national. On n'est plus dans la dédiabolisation, on est dans la crédibilisation. Ils font très bien leur travail. Ils sont parfaits à l'Assemblée
nationale. On les voit pas, donc on peut pas savoir.
Ah si, on les voit, mais justement,
pas beaucoup,
on voit les gens de la
NUP.
On voit les gens de la NUP qui font n'importe quoi. Oui. Et à côté de ça.
Mais c'est ton point de vue, Fred.
Mais non, c'est dommage, je suis ici pour donner mon point de vue.
Oui.
Donc, voilà, les scandales, les vociférations à l'Assemblée. Ce sont les gens de la NUP, c'est cette opposition-là. Mais l'opposition du Rassemblement national, elle se veut constructive. Ils sont même prêts.
Mais ils nous disent rien.
Ah si, j'ai
travaillé en commission.
Il faut un travail
qui est moins visible.
Et je termine.
Et parfois, ils votent avec le gouvernement. Et ça, c'est très intelligent. Aujourd'hui, on peut travailler pour le bien commun. Par exemple, sur les différents chèques et les protections, etc. Je dis non, c'est pas ce qu'on voudrait, mais on peut pas voter parce que c'est un petit peu, ça va un petit peu dans notre sens. Et ça, c'est très intelligent. Donc, dans 5 ans, oui, aujourd'hui, ce n'est plus impossible.
Et d'ailleurs, vous imaginez en 2027 le débat présidentiel, si justement ces députés de ce partis politiques disent nous on travaille en bonne intelligence, on a voté des lois soutenues par le gouvernement, ça apporte une crédibilité à ce parti politique.
Le super Moscato Show hier, un grand champion peut-il pleurer? Vendredi dernier, Federer n'a pu retenir ses larmes lors de ses adieux au public en compagnie de Rafael Nadal, Andy Murray ou encore Novak Djokovic. Mais pour l'insensible Vincent Moscato, eh bien, un grand champion, ça ne doit jamais pleurer. Écoutez.
Il peut avoir une émotion. Après, ce que je trouve un peu dommage, mais c'est plus la mode, il faut montrer ses sentiments, c'est le monde de maintenant où il faut qu'on se montre de partout, c'est qu'il pleure, quoi. Tu vois, je veux dire, des grands champions, tu veux pas qu'ils pleurent, tu veux qu'ils gardent ça en eux. Alors je sais que là, les mecs vont dire, mais quand t'es un mec, quand t'es un champion comme Federer, t'as de la pudeur, tu te gardes ça, tu dis rien, Nadal aussi, j'aurais aimé qu'il pleure pas parce qu'un grand champion comme ça, c'est un capitaine de corvette, c'est un mec, un gaillard, tu sais, c'est le type qui joue de la musique sur le Titanic, le barbu, tu sais, le capitaine du Titanic qui coule comme ça, qui a fait évacuer tout le monde. Federer, c'est ces mecs-là, c'est des mecs qui sont des légendes.
Et quand ta première fille elle est née, tu as pleuré?
Mais non, des conneries, je vais pas chialer pour tout non plus, je chiale pas pour tout. Quand j'ai reçu mes impôts, j'ai chialé, je te le dis.
Je crois que je vais pleurer. C'est la première fois que Vincent Moscato me déçoit un peu quand même.
Mais je
c'est
suis
bon,
sûr. Il n'y pense pas. Mais bien entendu, mais il ne faut pas avoir fait un grand champion qui s'en va. C'est quelqu'un qui prend sa retraite. Et comme n'importe quelle personne qui prend sa retraite, qu'il ait été couvreur, grande star de la chanson. Non, mais c'est vrai, mais quand tu finis ta
carrière. En France, les gens, quand ils prennent leur retraite, ils pleurent pas.
Tu rigoles.
Ils boivent une coupe de champagne. Mais ils sont heureux.
Mais quand une période de ta vie importante se termine, automatiquement, il y a une émotion légitime. Donc, je comprends pas trop ces attaques de Vincent.
Mais oui,
moi, je trouve ça beau. Moi, ça m'émeut.
Image, en plus, entre Nadal et Federer, moi, j'ai pleuré.
Moi, c'est voir Nadal pleurer, ça m'a.
Mais après, Moscato, voilà, je me permets juste de rappeler qu'en 98, lorsqu'il a remporté le bouclier de Brennus, sur la pelouse, il me semble que c'était le Parc des Princes, il a pleuré.
On va retrouver les images.
Oui, mais il a pleuré, enfin j'en suis quasi persuadé. Oui.
Puis les grands sportifs sont pas des machines comme ça, robots, sans sentiments. C'est plutôt sympathique de voir que justement ils soient émus. Franchement, je trouve pas.
S'il n'y a pas de sentiments dans le sport, il n'y a plus aucun intérêt au sport.
Oui, c'est beau ce que vous dites.
Oui, c'est beau.
Bah, non, mais franchement,
je pense qu'on peut pas faire mieux là.
Il n'y a pas de débat, évidemment. Voilà.
Et puis, s'il n'y a pas de débat, on va s'arrêter. Comme ça, au moins, le problème sera réglé. Dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Attention, alerte rouge, la hausse des frais bancaires. Stéphane va nous en parler dans quelques secondes. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et Stéphane, aujourd'hui, on parle d'un truc pas très sympathique. Ce sont les frais bancaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que la hausse des tarifs, parce qu'il va quand même y avoir une hausse, ne dépassera pas 2% l'an prochain. La mauvaise, c'est que ces tarifs sont déjà très élevés, quoi.
Vous savez combien on paye chaque année de frais bancaires?
Non.
219€ en moyenne par an. Évidemment, il y a un gros écart entre les banques en ligne et les banques traditionnelles, mais le montant est colossal et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ces tarifs ne vont pas augmenter de plus de 2% l'an prochain. Certaines banques ont même dit qu'elles allaient geler les tarifs pour les catégories de clients les plus défavorisées. Alors, 2% de hausse maximum, est-ce que c'est un geste significatif? Les banques nous disent la main sur le cœur que dans un contexte d'inflation, c'est un effort colossal. En réalité, les tarifs avaient augmenté de 1,5% cette année et de 0,6% l'an dernier. Ça n'arrive pratiquement jamais que les tarifs des banques augmentent de plus de 2% par an. Donc, la limite qui a été annoncée pour l'année prochaine, elle est très symbolique, mais c'est un geste, on va dire, à minima.
Alors, Stéphane, on m'a dit que les banques françaises étaient parmi les plus chères d'Europe. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est ce que disait un rapport de la Commission européenne il y a quelques années. La France était en 4e position dans le palmarès européen des banques les plus chères, 4e derrière l'Italie, l'Espagne et la Lettonie. La France est loin devant l'Allemagne, 9e position, très loin devant la Belgique, 25e position. Donc oui, les frais bancaires en France sont plus élevés que la moyenne européenne, avec quand même un bémol, c'est que ce classement, il a quelques années. Et en fait, c'est assez difficile de trouver des chiffres récents pour deux raisons. La première, c'est que les banques en ligne ont dynamité le marché et qu'au sein d'un même pays, il y a maintenant de grands écarts entre les banques en ligne et les banques classiques. Et la deuxième raison, ce sont les critères de comparaison. On ne consomme pas tous les mêmes services bancaires tous les mois. Et donc, c'est très difficile d'établir un panier de services qu'on puisse comparer réellement d'un pays à l'autre.
Et il y a les agios aussi dans ces frais.
Il y a les agios, il y a les commissions d'intervention, tous ces services chers dont on parle souvent. Mais en réalité, ces frais, Estelle, ils sont de plus en plus encadrés. Parce que depuis 2014, par exemple, les frais de découvert sont plafonnés en France. 8€ maximum par intervention, 80€ par mois. C'est quand même colossal, mais c'est un plafond. Et ce plafond, il est ramené à 40€ pour les personnes en situation de fragilité financière. Sachez aussi que depuis 2007, les frais sont plafonnés pour les chèques et les prélèvements rejetés. Et à partir du 1er février prochain, la loi va encore se durcir. Les banques ne pourront plus vous facturer plusieurs fois des frais pour un même prélèvement rejeté.
Bah encore heureux.
Oui, mais jusqu'à présent, c'était à chaque fois que le prélèvement était présenté et rejeté que la banque avait le droit de vous facturer des frais d'intervention. Et à partir du 1er février 2023, ce sera une seule fois par prélèvement.
Mais est-ce que les banques ne se sont pas rattrapées sur d'autres frais? Parce que maintenant, il y a des plafonds sur certains frais.
Ouais, on va peut-être faire un tour de table. Vous avez l'impression que les banques se sont rattrapées sur d'autres frais bancaires?
J'ai l'impression que ma banque me coûte de plus en plus cher.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on les voit pas.
Je vois des 90 centimes, 1€ qui sont prélevés comme
je
ça.
Je sais jamais ce que c'est. Il y a du 1,99€ tout le temps, mais je sais pas ce que c'est.
Allez, bonne réponse. Les banques se sont rattrapées sur d'autres services. Certains ont beaucoup augmenté ces dernières années, à commencer par les frais de tenue de compte.
Oui.
167% de hausse en moyenne entre 2012 et 2021. C'est l'Observatoire des tarifs bancaires qui a mesuré cette hausse. 19,32€ par an il y a 10 ans. La moitié des banques en France ne facturaient aucun frais de tenue de compte. Aujourd'hui, il y a 11% des banques qui n'en facturent pas, ce qui veut dire que 89% des établissements bancaires en France vous font désormais payer des frais de tenue de compte. Parmi les autres tarifs qui ont augmenté, les retraits d'argent dans les distributeurs des autres établissements. Techniquement, on appelle ça un retrait déplacé. C'était complètement gratuit en France il y a une vingtaine d'années. Les personnes comme Fred peuvent s'en souvenir. Aujourd'hui, plus de 90% des banques le facturent après généralement deux ou trois retraits.
Oui. Au bout de deux fois, c'est 1€.
Hein ?
Ouais.
Exactement, tout simplement parce que les banques en fait payent entre elles des frais. On appelle ça une commission interbancaire. Et en 2020, ce tarif était de 89 centimes exactement par retrait. Et puis inversement, certains tarifs ont été supprimés. Heureusement, j'ai envie de dire. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, on vous facturait des frais d'accès à distance, c'est-à-dire un abonnement pour la banque en ligne, les SMS qui vous prévenaient d'une. Oui, mais ça ne marche pas en banque privée, Estelle. Mais
non,
pour le commun des mortels, ce genre de service service était facturé et aujourd'hui plus personne pratiquement ne le facture. Et puis un autre service qui a beaucoup augmenté, ce sont les cartes bancaires. Elles étaient gratuites chez certaines banques il y a quelques années, par exemple Hello Bank. Il y a quelques années, vous donnez la carte Visa Premier sous condition de revenu, mais gratuite. Aujourd'hui, elle est facturée 100 euros.
Ah oui, ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Des conseils pour payer moins cher, quand même, Stéphane ?
Oui, plusieurs sites. D'abord, panorabank.com. C'est le site qui, tous les ans, établit un classement des banques les moins chères. Pour 2021, je vous donne le classement. Première, Boursorama Bank. Deuxième, Fortuneo. Troisième, Bifor Bank. Ce sont les trois banques les moins chères. Meilleurtaux.com, là aussi, propose un classement avec un outil très intéressant. C'est que vous rentrez votre profil, vous précisez ce que vous utilisez ou pas. Et en fonction de vos critères, là, on vous propose la banque la plus adaptée. En théorie, sachez-le, c'est pour faciliter la mobilité bancaire. Il paraît que c'est beaucoup plus facile de changer de banque aujourd'hui. En réalité, ça n'est pas du tout le cas. J'ai trouvé une statistique intéressante. Est-ce que vous le saviez ? On change plus souvent de partenaire dans la vie que de banque.
Vous avez beaucoup changé de banque ou pas ?
J'ai changé de banque, j'étais sûr que tu allais me poser la question.
Ah oui,
j'ai changé de banque trois fois dans ma vie de partenaire...
Un peu plus. Oui, je sais que votre mère vous écoute, donc je ne veux pas la choquer. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi, tous les jours, 13h50 dans Estelle Midi. Dans un instant, on évoquera l'histoire du jour de retraités obligés de vivre dans un camping-car depuis plus de 2 ans car leur maison est occupée par des locataires qui ne veulent pas partir et qui ne payent plus leur loyer. Faut-il supprimer la trêve hivernale qui protège les squatteurs tout l'hiver? On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.